au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour, Mathieu. Quatre fois bonjour.
Oui, hier, j'ai été un peu déçu, là. J'ai pas trouvé de réponse à cette question.
Ouais, puis aujourd'hui non plus. C'est bien.
Mais j'ai pris quatre semaines de vacances.
Ah, peut-être. Oui, c'est bien. Alors, on doit quatre fois bonjour pour signer tes quatre semaines
Exactement.
De vacances. Ça va être la même chose, hein. Hélène est partie quatre semaines. Elle revient la semaine prochaine. C'est peut-être pour elle ces quatre bonjours-là aujourd'hui. On va tenir ça là, hein? On n'ajoute pas grand-chose. Donc, aujourd'hui, c'est le 26 août 2026. Petit rappel météo très rapidement. Québec, Ontario, province maritime, alternance soleil et nuages. Par endroits, des possibilités d'averses et un risque d'orage. Maximum autour de 26, humidex à 30. C'est de la pluie dans le nord de l'Ontario et à Terre-Neuve, 24, humidex 28. Généralement ensoleillé dans l'ouest. Alors, maximum 27 à 29. Avis de qualité d'air de l'air en Saskatchewan, un avis jaune. En Colombie-Britannique, à l'intérieur des terres, possibilité d'averse et surtout risque d'un orage. Et bien voilà, le soleil sur la côte ouest et partout dans cette province, c'est autour de 21 degrés. Et c'est le temps de saluer notre chroniqueur qui est en studio aujourd'hui avec nous. Allô, allô, Serge Bradel.
Le seul, hein?
Le seul, c'est vrai.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? T'as beaucoup de choses à nous dire.
Oui. Je vous parle d'un endroit, d'un café plus que centenaire à Sherbrooke, le café Hubert Saint-Jean.
Ah.
Où c'est une institution sherbrookoise depuis plus de 100 ans. Et ensuite, je vais vous parler, j'ai une revue qui s'appelle « De quand ça date ?» Et de temps en temps, je vais chercher des trucs-là. Et j'ai deux articles que j'ai trouvés. « De quand datent les dragées
mm-hmm. ?»
et « De quand datent les mots croisés ?»
Ah, intéressant tout ça. Moi, je vous propose une entrevue avec Lyraël Dauphin et Mélissa Huguère. On va parler de cette pièce qui s'appelle « La version qui n'intéresse personne » présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Et il sera aussi question avec Léa Philippe, directrice générale et artistique du Festival des arts de Ruelle à Montréal. Et on va prendre des nouvelles de l'Ontario avec Julien Caillouette. Dans l'éphéméride du jour, Mère Teresa, en 1910, c'était sa naissance, hein, qui est née, alors je vais essayer de prononcer son nom, Angese Gogzi Boksayu. Elle est venue au monde à Skopje, c'est en Albanie. Religieuse catholique missionnaire, fondatrice des missionnaires de la charité. Son action auprès des personnes pauvres et malades à Calcutta lui vaut le prix Nobel de la paix en 1979. Elle est décédée le 5 décembre 1997. 1935, c'est la naissance de Géraldine Ferraro. Ça vous dit quelque chose? Femme politique des États-Unis.
Ah oui.
Qui est devenue la première femme candidate à la vice-présidence des États-Unis. Elle était donc aux côtés du démocrate Walter Mondale qui a perdu à l'époque. C'était contre, si je ne me trompe pas, Ronald Reagan. Elle est morte, elle, en 2011. 1980, j'ai manqué l'avion! Mais Coughlin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et bon, maintenant, il est humoriste. Mais il s'est fait mondialement connaître pour son rôle de Kevin McAllister dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Journée mondiale du chien aujourd'hui, l'occasion spéciale pour rendre hommage à nos compagnons à quatre pattes, donc mon petit Gustave qui peut-être m'écoute ou pas à la maison. Hein, je te rends hommage, mon petit Anna. Alors, c'est une journée qui met en lumière l'importance des chiens dans nos vies, que ce soit comme animal de compagnie ou chien de travail ou de thérapie. Elle vise également à sensibiliser l'adoption, soulignant donc les bienfaits qu'ils apportent au quotidien. Et puis justement, donc, pour exprimer notre gratitude envers ses fidèles amis pour promouvoir leur bien-être à travers le monde. Je vais aussi vous parler que c'est la journée de l'égalité des femmes aux États-Unis, le 26 août. C'est une journée donc qui a été créée avec la certification du 19e amendement en 1920. C'est que le Congrès américain a officiellement désigné cette commémoration en 1973. Puis on ne peut pas passer à côté de cette triste nouvelle. C'est le décès, donc, hier de Dolly Parton à l'âge de 80 ans. Mm-hmm. C'est vrai que Dolly Parton a vendu plus de 100 millions d'albums.
Incroyable, hein?
100 millions d'albums. Une philanthrope qui a financé beaucoup de choses, dont, en grande partie, le développement du vaccin Moderna contre la COVID.
Mm-hmm.
Elle était une alliée de la diversité sexuelle et de genre. Avec sa chanson, quand elle chantait devant des personnes de la diversité, cette chanson de Jolene, ça donnait « Drag Queen, Drag Queen, Drag Queen ». Ouais. Elle a écrit 3 000 chansons.
Ouais.
dont celle-ci qui, moi, est une chanson qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que dans le cœur, je suis un grand amoureux, même si je suis célibataire internellement. Alors, cette chanson qui s'appelle « I Will Always Love You », chanson qui a été reprise en 92 par Whitney Houston dans le film « Bodyguard ». On l'écoute. Dolly Parton qui nous a quittés hier. Il faut que je fasse une dernière petite mention. Elle avait cette citation qu'elle avait dit un jour, « It costs a lot of money to look this cheap. » Alors, ça coûte beaucoup d'argent pour avoir l'air aussi bon marché. C'est parce que Dolly Parton s'était réapproprié le look de la femme blonde qu'on jugeait épaisse, ouais. Niaiseuse, petite connasse, mais pas du tout. Elle s'est réappropriée ce look pour, en fait, démontrer aux gens qu'on peut être blonde et avoir du succès.
Et être une bonne femme d'affaires.
Hein. Oh my God, oui. Et sur ça, on va aller au grand titre aujourd'hui. Dans la presse plus, à Plattsburgh, petite ville frontalière de l'État de New York, les attaques économiques du président Trump à l'endroit du Canada ravivent l'inquiétude. Rencontré devant sa résidence, un ancien gardien de prison ayant requis l'anonymat exprime sa déception face à la détérioration des liens avec un pays qu'il considère comme un allié historique. D'autres citoyens, comme le retraité Johan Biko, se désole également de la situation actuelle, tandis qu'un résident prénommé Phil, bien qu'appuyant l'administration sur le plan économique, estime que les mesures visant le marché canadien vont trop loin. Sur le terrain, les contre-coups de cette guerre commerciale affectent le quotidien des entrepreneurs et des familles. Orlando Chanduvi et Jeannette Royas, propriétaires de Inca Sandwiches Shop, constate une hausse marquée des coûts d'approvisionnement, la viande et la laitue coûtant jusqu'à 3 fois plus cher depuis 2 ans. Malgré ces augmentations, le couple a choisi de maintenir ses prix inchangés pour préserver sa clientèle. Pour Steven Bouchard, dont la famille est répartie de part et d'autre de la frontière, les coûts de la vie limitent désormais la fréquence des rassemblements familiaux. Dans le secteur brassicole, Brandon McCormick et sa collègue Brandy Taylor soulignent l'incertitude constante causée par les révisions tarifaires sur les matières premières et les produits transformés. Face à ces difficultés, des résidentes, comme l'enseignante Laura Burtz-Sisson, appellent à une répartition des relations diplomatiques et humanitaires. En fait, elle veut une réparation, c'était mal écrit, des relations diplomatiques et humanitaires. Pour sa part, Sheila Arruda a choisi d'installer devant sa maison un drapeau combinant les couleurs états-uniennes et canadiennes. Celle-ci espère que les insatisfactions de la population se traduiront par un changement d'équilibre politique à la Chambre des représentants ou au Sénat lors des prochaines élections de mi-mandat. On reste toujours dans cette guerre cœur commercial que livre Donald Trump au Canada. Mais dans la presse, c'est la traduction d'un article du New York Times. Les pourparlers commerciaux intensifs engagés pour apaiser les tensions entre le Canada et les États-Unis se sont soldés par un échec brutal, cédant la place à une confrontation tarifaire ouverte. À l'issue de négociations nocturnes tendues à Washington, le premier ministre canadien Mark Carney a ordonné le rappel de son équipe de négociation. Cette décision fait suite à une consultation décisive avec le premier ministre ontarien Doug Ford, qui s'opposait fermement aux exigences états-uniennes touchant le commerce de l'alcool et jugera insatisfaisantes les protections prévues pour la sidérurgie et le secteur automobile. L'achoppement de discussions découle de désaccords profonds sur plusieurs enjeux économiques et souverains. Les exigences de la partie états-unienne, qui incluaient donc un droit de regard sur la politique tarifaire canadienne envers les pays tiers et la fin du programme acheté canadien, étaient jugées tout à fait inacceptables. De plus, les contestation des régulations canadiennes protégeant le contenu en ligne en français et l'abandon final des ouvertures canadiennes sur le projet de pipeline Keystone XL ont précipité l'impasse. Face à l'impossibilité d'obtenir des garanties durables et refusant d'assujettir sa politique commerciale à Washington, le gouvernement canadien a rejeté l'accord proposé. L'effondrement des pourparlers débouche sur une escalade immédiate de sanctions économiques entre les deux voisins. Trump a réagi en annonçant une nouvelle hausse, cette fois de 50 % des droits de douane sur l'ensemble de la production automobile et sidérurgique canadienne à compter du 1er janvier 2027. En réplique à ce qu'il perçoit comme une atteinte à la souveraineté nationale, Mark Carney a confirmé la mise en place de représailles commerciales de la part du Canada prévues le 8 septembre. Et enfin, à l'approche du scrutin provincial du 5 octobre, les lecteurs du quotidien Le Devoir anticipent une campagne électorale cruciale et particulièrement serrée. Marquée par un contexte d'incertitude économique, la hausse du coût de la vie et des tensions commerciales avec les États-Unis, cette élection se distingue par la présence inédite de 5 partis politiques nationaux en mesure d'obtenir des sièges. Cette fragmentation du vote amène plusieurs observateurs et citoyens à prédire la formation d'un gouvernement minoritaire. Face à ces enjeux, Le Devoir a mis sur pied un panel nommé le Club des électeurs, composé de citoyens âgés de 22 ans à 74 ans, provenant de diverses régions du Québec. Parmi eux, le travailleur humanitaire Jocelyn Beausseau. Il estime que ce paysage politique morcelé mettra en lumière les limites du mode de scrutin actuel. De son côté, le gestionnaire en technologie de l'information, Diaka Camara, attend des propositions concrètes sur l'habitation, la santé et l'éducation. Les questions sociales figurent également au cœur des préoccupations d'Alicia Despins, ancienne élue municipale et désormais établie en Abitibi, et Marjolaine Cloutier, conseillère dans le milieu communautaire à Trois-Rivières. Les préoccupations financières et environnementales occupent une place centrale dans les attentes formulées par les panélistes. L'étudiant en droit Louis-Philippe Durbet cible la crise de l'abordabilité du logement et la transition écologique comme axe majeur du débat. Pour sa part, l'ingénieur à la retraite Liliane Lequeyec réclame un projet de société axé sur la durabilité plutôt que sur les discours populistes. Enfin, l'évolution des orientations politiques suscite des réalignements chez certains électeurs d'expérience, à l'image donc de Majoud El Hamakani, un gestionnaire à la retraite de la SAQ. Il a choisi de s'éloigner du Parti québécois en raison des récents changements d'orientation politique de son chef. On s'en va en musique. Monday. It's just another morning, Tuesday. I only feel like living day after day. Life slips away. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles
était son problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si il n'y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires et d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi
Laissez-moi danser, c'était Wax et Pomme.
Une reprise hein, de cette chanson iconique de Dalida, avec la vidéo où on voit des jeunes danseurs autour d'elle. Elle dansait aussi. Et qu'est-ce qu'elle dansait bien? Et surtout, on va se dire, mon Dieu, que Dalida, elle était belle. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle était belle? Ouais. Mm-hmm. Serge Bredet, on va parler du Café Saint-Jean. C'est un café plus que centenaire à Sherbrooke.
Oui, exactement. C'est dans la revue Nostalgie. Le numéro 16 en 2024, un article de Robert Laplante. Alors, parmi les plus beaux secrets de Sherbrooke, il y a le café Hubert Saint-Jean. Un café centenaire, parmi les premiers au Québec, situé au 455 rue King West. Un secret bien gardé? Peut-être pour nous, mais pas pour les Sherbrookois qui le connaissent depuis toujours. Normal, avec 100 ans d'existence de ce commerce qui a initié des gens au plaisir du café. Au plaisir du café, oui, mais aussi du thé et des épices. Parce que, vous avez bien lu, thé et épices, on en trouvait aussi autrefois dans ce café-là. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais à l'époque, c'était courant de voir des commerces qui offraient café, thé et épices, explique le copropriétaire et grand passionné de café devant l'Éternel, Marc-Antoine Crépeau. C'était des produits d'importation plus coûteux qu'on pouvait vendre en vrac. Comme les quantités vendues étaient moins importantes, les propriétaires devaient proposer à leur clientèle une diversité de produits. D'où la surprenante combinaison café, thé et épices. Aujourd'hui, c'est normal. Dans les boutiques, on trouve pas mal... On prend les café, thé et épices.
Oui, à l'extérieur des grandes chaînes, là, oui.
Oui,
ouais, c'est vrai.
Une stratégie commerciale peut être aussi due à la discrète popularité du café en 1923. Nous ne le consommions pas de la même façon qu'en Europe. Ici, c'était plus une boisson pour se réchauffer. Ce qu'on offrait était simple, des cafés moins corsés, souvent faits au percolateur. Hubert Saint-Jean a donc dû, comme ses concurrents, sensibiliser sa clientèle à la richesse d'un bon café. Une tâche énorme qui aurait pu en faire reculer plus d'un. D'autant plus qu'avant l'ouverture de son entreprise, Hubert Saint-Jean travaillait dans le secteur de l'huile. Un domaine où il recevait un bon salaire, il était bien payé. Oui. La raison pour laquelle il a décidé de l'ouvrir reste obscure. Son fils Michel nous a affirmé qu'il en avait marre de travailler pour des patrons anglais. Bon. Une opportunité s'est présentée et il a relevé le défi. Institution à Sherbrooke, le café n'a pas toujours été à la hauteur de son importance historique. Pendant une dizaine d'années, de 2008 à 2018, le sympathique établissement a manqué un peu d'amour. C'est qu'en 2008, Michel Saint-Jean, qui avait repris le café de son père, a décidé de prendre sa retraite, le laissant entre les mains de repreneurs qui n'ont pas su lui témoigner le respect qu'il méritait. C'est ici qu'arrive l'ancien barista Marc-Antoine Crépeau et son associé Rémi Tremblay, qui à leur tour reprennent l'institution en 2018 et décident de lui redonner son lustre d'antan. Pour nous, il était essentiel de renouer avec son histoire et avec l'esprit que son fondateur lui avait insufflé, fait savoir Marc-Antoine Crépeau. Mais comment renouer avec le passé et l'esprit du café quand il existe peu d'artefacts sur lui? Une tâche d'autant plus compliquée que Marc-Antoine Crépeau n'est pas natif de la reine des cantons de l'Est. Il y est venu pour ses études collégiales et universitaires et ne connaissait pas son importance historique. On n'avait pas beaucoup d'archives et de photos sur le café et sur M. Saint-Jean. Une chance, son fils Michel nous a aidés et en nous en parlant beaucoup. On a essayé de garder l'esprit du café dans le décor et dans la qualité des produits offerts, sauf pour les épices et le thé qui ont disparu de l'offre. Ils sont concentrés sur le café. Hubert Saint-Jean avait une expertise dans ce domaine que nous n'avions pas. Le café est déjà un univers en soi et on s'est concentré sur lui. Si le spectre d'Hubert Saint-Jean flotte toujours dans la boutique du 455 rue King West, il n'est pas là en totalité. Un peu comme les fantômes du Forum, qui n'ont pas tous déménagé au Centre Bell, celui d'Hubert Saint-Jean est resté en partie à son ancienne adresse, au 1627 King West. On a dû la sacrifier, et là, on ne fait plus la torréfaction sur place. On a dû la sacrifier pour avoir plus d'espace. Une des particularités du café Hubert Saint-Jean, c'était qu'elle se faisait sur place. Alors, on n'a plus malheureusement les odeurs de la torréfaction qui l'embaumait depuis presque un centenaire. Et alors, quand on rentre dans un endroit où ils font la torréfication, le monde dit que ça sent bon.
Ça sent la vie. Oui. Ça nous réveille.
Oui. Ouais. Ce qui ne nous empêche pas de humer, en imagination du moins, et dès notre première gorgée, toutes les bonnes odeurs de presque 100 ans de torréfaction. Et qui sait? Peut-être même d'apercevoir le fantôme d'Hubert Saint-Jean, heureux de nous voir savourer ses cafés. Et en complément, un petit article, une boisson prisée au Québec, depuis quand même un bon bout de temps.
Ah.
Oui, ça fait longtemps qu'on boit du café au Québec. En fait, depuis le tournant du 18e siècle. En 1753, par exemple, Louis Franquet, un émissaire envoyé en Nouvelle-France pour évaluer l'état des fortifications de Louisbourg, Québec, Montréal, Trois-Rivières. On se rappelle que la guerre de 7 ans s'en venait, alors on venait vérifier l'état de la défense. Alors, il rapporte avoir siroté un café lors d'un souper organisé par Mme Pierre Rigaud, belle-sœur du gouverneur général Pierre de Rigaud, dans son domicile trifluvien. Sans doute que Louis Franquet, comme les autres convives du souper, et les habitants de la Nouvelle-France avaient bu un café, noir ou avec du lait, provenant des Antilles françaises. À moins que ce ne soit de l'île Bourbon, l'ancien nom de la Réunion, disponible dans la colonie depuis 1748. Quand même, on avait ça depuis longtemps, le café. Si Mme Rigaud pouvait offrir du café à ses invités, c'est qu'elle en avait les moyens. Importé par navire, le café était une denrée de luxe au même titre que les épices. Une denrée d'autant plus luxueuse qu'on en cultivait peu. Au cours de l'année 1750, il s'est produit, retenez le nombre, 600 000 sacs de café dans le monde. 600 000 sacs en 1750.
Ça, je pense que c'est ma consommation annuelle, non?
Et aujourd'hui, risqueriez-vous un chiffre?
Non.
Le nombre de sacs?
3 milliards.
Ah ben non, wow.
Ah, ça, c'est Mathieu qui s'est risqué. Moi, je ne me risque pas.
On parle de 144 millions de sacs annuellement.
Moi, ça en prend du lait,
ben,
ça.
C'est beau.
Ça en prend du lait puis du sucre.
Oui. Et pour ce qui est du café de Mme Rigaud, on ne saura jamais s'il était bon ou non. Mais gageons qu'au prix qu'il coûtait, chaque tasse devait être appréciée. Est-ce que j'aurai encore le temps?
Ah oui, on a encore le temps.
Albert-Louis Vanhoute, pionnier du café.
Ah ouais.
Et oui.
Ouais, c'est un nom qu'on voit, me semble, quelque
oui.
part sur
ben,
certaines
oui,
chaînes.
Oui, 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 très populaire.
Ouais.
Alors, on a tous vu un jour le visage rassurant de M. Vanout dans un des établissements qui porte son nom ou sur un des sacs de café que ces derniers proposent. Mais on sait moins qu'il a joué un rôle déterminant dans le développement de nos papilles gustatives en matière de café.
Ah bon?
Albert-Louis Vanout s'installe au Québec en 1912 avec l'intention de faire carrière dans l'importation de chevaux. Eh oui, on est loin du café.
Tout un changement oui. de carrière, ça. Hein?
Malheureusement, la Première Guerre mondiale met fin à ses rêves. Le Tourquenois n'a pas de choix. Il doit se tourner vers d'autres activités pour gagner sa vie. Et pourquoi pas le commerce de produits alimentaires importés. Alors, une idée d'autant plus intéressante qu'une boutique semblable est à vendre au 321 Ontario Est à Montréal. Le propriétaire, Camille Husseneau, désire prendre sa retraite et, comme il n'a pas de relève, Albert-Louis devient le repreneur rêvé. Mmh. Véritable caverne d'Ali Baba, on y trouve de tout, notamment des produits européens, de l'eau de Vichy, de l'huile d'olive, du foie gras, des vins, des épices, des asperges, des champignons, du savon de Marseille, de la vanille, du thé et, bien entendu, du café. À cette offre, M. Vanout ajoute des biscuits belges et hollandais, du chocolat Côte d'Or, des ustensiles de cuisine de France, du vinaigre de vin, des huiles, des moutardes, des marrons, etc. Hey, ça devait être de faire une belle épicerie. Des petits trésors qui, combinés à l'excellent service, séduisent une clientèle de plus en plus nombreuse, et son épicerie marche tellement bien que dans les années 1930, il ouvre une succursale à Québec. Toutefois, il aime moins le café qu'il offre. Il a beau en parler à son torréfacteur externe, ce dernier ne réussit jamais à atteindre le goût et la couleur des cafés du vieux continent. Il décide alors de torréfier lui-même ses grains dans son arrière-boutique et de proposer à ses clients son fameux mélange maison. Le succès est au rendez-vous et le reste fait partie de l'histoire.
Ah, hein, c'est drôle, moi, mes parents buvaient du thé. Du thé le matin.
Oui,
ouais, c'était traditionnel et c'est fou, moi, c'est le café. Mais on dirait qu'en vieillissant, le café, on est plus exigeant.
Hein? Oui,
on a
ah, oui,
un
oui.
bon espresso. Là,
une fois qu'on a goûté à un vrai café,
ouais,
là,
ouais, ouais.
On n'est plus capable de café en grains après, là, en sachet. Là,
et je vais vous faire une confidence, tout le monde. Je ne bois pas le café qui est fait ici à Canalem. je suis incapable. Chacun ses goûts. Hein?
Oui.
Chacun
oui,
ses goûts, puis c'est ça. Je préfère un café un petit peu plus fort, un bon espresso. Ça réveille un peu
et
plus.
Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on vend des machines pour faire le café chez soi, là, incroyable. Là.
Avec les capsules, là, c'est assez extraordinaire parce que ça s'apparente à un très, très bon café.
J'ai un cousin qui finit, il a travaillé une quarantaine d'années pour une organisation, et on lui a offert un truc de café, c'est 3 000 $. Là. Écoute,
ouais.
j'ai vu ça l'autre jour avec les pressions ajustables pour le lait, l'eau puis le lait.
Ah, ça rend fou. Allez, on va prendre une petite pause et on continue cette chronique après, donc, dans 2 minutes.
Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bon, Mathieu, mes plus plates excuses, je sais que c'est toi qui fais le café.
Je ne prends pas personnel, là. C'est
mais
pas
c'est
moi
chacun
qui
ses goûts, c'est chacun ses goûts, oui. Ben, le café, c'est comme le vin, c'est comme beaucoup, beaucoup de produits. Hein. C'est vraiment une question de papilles gustatives et c'est vraiment chacun son goût. C'est
et ça tu sais que Mathieu peut faire des représailles, hein? Couper un micro, c'est facile.
Oui, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Allons-y maintenant avec les dragées de Verdun.
Oui, aimez-vous les dragées? En avez-vous déjà mangé?
Oui.
Oui.
Oui, ben oui. on tombe encore dans des choses de goût.
Oui, oui.
C'est sûr.
Mathieu, les dragées?
Je suis pas certain, en fait.
Non? Ça ressemble à ça, les petites dragées, là, sur la... Je sais pas si tu vois, là.
Oui, je vois les images, mais...
Ouais,
ah une... oui, 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 on dirait des galets.
Oui,
oui, oui, oui, c'est voilà. ça, oui. Mm-hmm. Alors, c'est un article de Véronique Dumas dans une revue que j'ai depuis un grand, grand bout de temps, un historien qui s'appelle « De quand ça date ?» Et c'était publié en 2012.
Ah,
et je garde ça précieusement. Ben
oui.
Il y a un tas garde l'épaisseur de ça. Là. Il y a tous des petits articles intéressants sur « De quand ça date ?»
La question, par contre, c'est où est-ce que tu ranges tout ça chez toi?
Ce que je fais, je garde pas tout, là.
Ben, ça prend de la place, tout ça, là.
Non, j'ai ma petite pile pour vues et voix.
Ouais.
Puis une fois que j'ai lu les revues, je les refile à une amie. Quand elle me les remet, je les refile à un couple d'amis.
Bon.
Puis quand c'est fait, je les refile à leur fils.
On est vraiment dans le recyclage.
Oui, puis après ça, ça s'en va en tout dernier à la résidence où demeurait ma tante en ces derniers jours. Puis sont les messieurs, madame, surtout les madames sont bien, bien contentes d'avoir
bon,
ça.
Bon, alors allons-y avec les dragées.
Cette gourmandise romaine, figurez-vous, symbole de partage des moments heureux, gagne très vite la France. Dès le 13e siècle, Verdun en devient la capitale incontestée.
Verdun.
Oui, d'ailleurs, c'est les dragées de Verdun qui sont les plus connues. La dragée, du latin tragemata, friandise, cette amande enrobée de sucre serait née de l'étourderie d'un confiseur romain. Souvent, il y a quelque chose qui arrive, qu'on invente, c'est un accident.
Mm-hmm.
C'est pas
on pourrait dire la même chose, je t'ai pas dit du Viagra. Bon, OK, on continue.
Oui,
ben, c'est arrivé par accident.
Oui, absolument. Oui, c'est pour les cheveux.
En fait, non, c'était pour le cœur. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui prenaient ce médicament-là avaient tout à coup de nouvelles prouesses en bas de la ceinture. Ouais.
Mais aussi, ça faisait pousser les cheveux.
Non, c'est un autre produit qui fait pousser les cheveux, oui.
OK. Vers 170 avant Jésus-Christ, Julius Dragatus, aurait laissé tomber une amande dans une jarre de miel. Le résultat de cette heureuse maladresse, vite perfectionnée par son inventeur, va plaire au-delà de toute espérance. Constituées d'amandes, de noix et d'épices enrobées de miel, elles sont offertes aux invités lors des cérémonies officielles ou privées, à l'occasion des naissances et des mariages. Les voilà déjà symboles du partage des moments les plus heureux de l'existence. Au Moyen Âge, les croisés rapportent d'Orient un ingrédient plus précieux que le miel, le sucre de canne. Son utilisation dans la confection des dragées va leur donner une apparence lisse, assez proche de nos sucreries modernes. Elles sont fabriquées par les apothicaires, seuls autorisés à faire le commerce du sucre.
C'est bizarre.
Les dragées, qui peuvent être constituées de graines ou de fruits confits enrobés de miel, sont aussi nommées épices de bouche et sont prescrites pour faciliter la digestion et rafraîchir l'haleine. Depuis le 13e siècle, elles ont leur capitale, Verdun, en Lorraine. Les apothicaires de la ville vont se spécialiser dans leur fabrication. La recette d'origine est faite à base de graines d'anis vert enrobées de sucre. On les recommande notamment aux femmes enceintes, pour mener à bien leur grossesse, et aux accouchés. Sans doute, en offre-t-elle aussi à leurs visiteurs. Ainsi serait née l'habitude de distribuer des dragées au baptême. Grâce aux bateliers, la spécialité de Verdun se fait connaître en Hollande, puis se répand jusqu'à Constantinople et en Russie. Les magistrats de la cité offrent des dragées aux visiteurs de marque et aux membres de la famille royale. En 1574, Henri III en reçoit à l'occasion de son sacre. Et en 1603, Henri IV, de passage à Verdun, se voit offrir des dragées. La tradition est encore respectée par les élus verdunois aujourd'hui. Un drageoir frappé des armes de Verdun est toujours offert au chef d'État rendant visite aux élus de la ville meusienne. À Versailles, sous le règne du roi Soleil, les dragées font fureur et forment l'essentiel des épices de chambre toujours à disposition. On les place dans des vases d'or et d'argent appelés drageoires. Mais il en existe de plus petits que l'on porte à la ceinture, comme le font les ducs de Lorraine présents à la cour depuis le 16e siècle. Ils ont coutume d'en distribuer aux courtisans, contribuant ainsi à leur diffusion. Et en 1777, une ordonnance royale interdit le commerce du sucre aux apothicaires. La confection des dragées devient alors l'apanage des confiseurs qui élargiront sans fin jusqu'à nos jours la palette des parfums. Il est toujours d'usage, à la sortie de l'église, de lancer des dragées, en France, là, au-dessus des mariés, pour leur porter chance et bonheur, et d'en offrir aux invités lors d'un mariage ou d'un baptême. L'amertume de l'amande, mêlée à la douceur du sucre, symbolise les joies et les peines de la vie. Pour un mariage, leur nombre doit être impair pour symboliser l'indivisibilité de l'union. On en offre généralement 5, une pour chaque vœu adressé au marié. Fécondité, félicité, prospérité, santé et longévité. Et voilà.
Et voilà. Ah. J'allais dire tout à l'heure que les dragées, c'était aussi... à cette époque, on avait une autre façon de... une autre technique ou une autre procédure ou une autre hygiène qu'on avait présentement. Et bon, les dragées, ça pouvait changer la laine, j'imagine. Mm-hmm. Alors, on va aller au mot croisé.
Oui. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans la série, magnifique série sur les rois de France de Maurice Druon, il y avait la méchante comtesse Mao là, d'Artois, qui, à un moment donné, elle avait un compte à régler avec le roi de France, et elle est allée visiter une tapisserie dans sa chambre, et elle avait... il était fou des dragées. Il en mangeait tous les soirs en se couchant. Et elle avait mis une dragée empoisonnée dans le petit bocal. Évidemment, il l'a mangé un soir, puis il est mort.
Ah, c'est la faute de la dragée. Et on n'a pas beaucoup de temps, on va aller aux mots croisés.
Les mots croisés.
Ça date de quand, oui.
Oui, cette invention britannique traverse la Manche en 1924 sous le nom de mosaïque mystérieuse. Depuis, cruciverbistes et verbicrucistes font allègrement fonctionner les neurones. C'est un article de Charles Giol.
Il faut dire que les cruciverbistes, ce sont ceux qui remplissent les mots croisés, puis les verbicrucistes, c'est ceux qui les créent.
Oui. Voilà. Si, depuis l'Antiquité, on s'est souvent amusé à croiser les mots autour de leurs lettres communes, comme le savent bien les épigraphistes spécialistes des gravures romaines, il fallait penser à faire deviner des mots aussi associés aux mots, associés aux moyens de définition pour accoucher des grilles de mots croisés. C'est à Arthur Wynne, un Britannique qui s'installe au début du 20e siècle aux États-Unis, où il se partage entre le journalisme et la pratique du violon, que revient ce mérite. Le 21 décembre 1913, il publie la toute première grille de mots croisés de l'histoire dans l'édition dominicale du journal The New York World, qui cherchait des idées nouvelles pour sa page consacrée au divertissement. L'objet, qui a la forme d'un losange, vide en son centre, baptisé World Cross Puzzle, est d'apparence bien modeste. Wynne n'a pu agencer que des mots de 3 ou 4 lettres, ce qui rend l'exercice dérisoirement facile. Malgré les doutes de son rédacteur en chef, le journaliste croit en son invention. Chaque dimanche, il soumet une nouvelle grille au lecteur du World. Bientôt, il a l'idée d'introduire des cases noires, ce qui lui permet d'échafauder des grilles rectangulaires et des grilles... j'ai perdu mon... formées d'un mot plus long. Et son crossword, l'appellation finalement consacrée suite à l'intervention d'un typographe inattentif, est vite copié par la concurrence. Hein. Les autres journaux s'en emparent. Dans les années 20, les bibliothécaires américains se plaignent ainsi de recevoir des visiteurs un brin turbulent qui arrachent les dictionnaires et les encyclopédies des mains des habitués. Rien ne résiste à la fièvre de cruciverbis à la recherche d'un mot. Et, malgré les réserves de nombreux observateurs qui voient dans cette nouvelle occupation une pure perte de temps, voire une activité puérile, selon les pasteurs américains, toujours les pasteurs, le phénomène est lancé, qui atteint vite le reste du monde occidental. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, le New York Times et le Times de Londres, qui se sont longtemps fait une gloire de résister à la mode, finissent par succomber l'un après l'autre. Il faut dire qu'en Grande-Bretagne, écoutez, la princesse Mary, fille du roi George V et grande-tante de la reine Élisabeth II, elle-même s'est prise de passion pour les mots croisés. Ah, ce n'est pas rien. Et en France, les tout premiers mots croisés sont publiés en novembre 1924 par l'hebdomadaire familial Dimanche Illustré sous l'appellation de « Mosaïque mystérieuse » avant d'être adopté par tous les quotidiens. Et vous avez le dramaturge Tristan Bernard, l'un des premiers convertis, écrit bientôt que le mot croisé est une thérapeutique à l'anxiété contemporaine. Mm-hmm. Il se fait même verbicruciste, c'est-à-dire auteur de mots croisés, mais ses recueils de grilles ne remportent pas un grand succès, bien qu'il soit le premier en France à introduire un humour raffiné dans les définitions. Alors, c'est ça, c'était l'origine du mot croisé. Petit mot croisé.
Eh bien, je penserai à ça quand je ferai ma prochaine grille.
Moi, je vais faire tous les jours.
Dans
la presse plus.
Merci beaucoup, Serge Bradette.
J'adore quand tu danses aussi. J'aime quand tu parles français. bla bla.
Blablabla, c'est le titre, et c'était de Tsatsatsous.
Tsatsatsous, quel nom intéressant. Ah, à 18 ans, Sacha et son meilleur ami Tom ont quitté Montréal pour Dawson City au Yukon, cherchant la liberté au sein d'une communauté de punk et de vagabondes. Mais quand l'amour s'en mêle, la fraternité vole en éclats. Accusé de trahison, Sacha devient la cible du rejet collectif avant de se retrouver confiné dans une cabane isolée alors que tout un village fait son procès. C'est ce récit, né du roman d'Emmanuel Pierrot, que porte la pièce La Version qui n'intéresse personne, une création du Théâtre du Trident, du Théâtre de la Famille et du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui en coproduction avec le Théâtre de l'Œil, qui sera présenté donc au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui à compter du 15 septembre jusqu'au 10 octobre. Waouh, j'ai tout dit ça. Alors, on y va. Pour discuter tout ça, ben, vous avez entendu ces rires, parce qu'on reçoit Lirel Dauphin et Mélissa Huguère, qui font partie de la distribution. Hey, bienvenue tous les deux.
Merci.
Tous les deux. À vous deux, donc, je pose cette question, parce que, bon, on n'a pas la personne qui a fait l'adaptation, mais j'imagine que vous êtes au courant un peu de tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché là, l'envie d'adapter ce récit d'Emmanuel Pierrot sur la scène?
Oui.
Ouais. J'y vais. Donc c'est Marie-Claude Saint-Laurent qui a adapté le roman pour le théâtre. Et dans le fond, Marie-Claude et Marie-Ève Milot, ils ont fondé la compagnie du théâtre de La Famille en 2009. Puis leur compagnie s'intéresse vraiment à créer ou à recréer ou à faire vivre et revivre une culture des femmes en mettant en lumière leurs expériences dans les sphères privées, sociales, politiques et artistiques. Puis justement, Pierrot, en écrivant ce roman-là, a créé un personnage, une jeune femme qui fait le choix de vivre et de trouver réparation en se racontant une femme qu'elle invente au travers du roman. Puis c'est ce geste-là pour Marie-Claude d'imaginer pour survivre qui rejoint toute sa raison d'être, son envie d'être et de créer d'après ses propres dires. Ouais.
Ah, ben j'imagine que vous êtes au courant toutes les deux parce que vous avez contribué à la création. Hein?
Ben, on contribue quotidiennement à la création. Oui, si je veux dire, comme la base du texte de Marie-Claude qui est énorme, là, qui a travaillé d'arrache-pied puis qui a fait plusieurs versions. Plus après, il y a un peu de comme nous qui se mélange un peu dans tout ça avec nos propres manières de dire. Tu sais, je veux pas, c'est une adaptation, fait qu'on peut pas faire tous les personnages du roman. Tu sais, fait qu'il y a des personnages qui ont été contractés ensemble et tout ça. Donc après, ben, on prend un peu de notre personnalité là-dedans, ça et tout. Là, donc, c'est bien chouette.
Comment décrit-on la réalité, une réalité complexe, justement, de ces personnages-là qui sont des personnages un peu en marge, mais sans tomber dans les clichés. Ça, c'est important, là, les clichés, on ne veut pas ça au théâtre.
Oui, on connaît ça. je pense que comme dans chaque chose, c'est les situations, c'est la vérité. C'est de se baser sur les choses qui arrivent et pas représenter une image stéréotypée, justement. Ce n'est pas de faire comme « voici les codes de ce stéréotype et on vous présente ça ». C'est plus qu'est-ce que ces gens-là vivent, puis de le faire... d'une manière comme multisensorielle aussi dans la pièce, tu sais, je veux dire, comme avec des silences, avec des rires, avec des nuances, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on réussit à mieux raconter la marge, puis je le sais, c'est ça que je fais aussi dans ma vie, mais comme d'y aller dans la nuance, d'y aller dans comme l'humanité, tu sais, de comme voir que tout le monde a une part d'ombre, tout le monde a une part de lumière, puis que il y a cet esprit de communauté-là aussi qui fait que, oui, il y a une marge, mais cette marge-là est vivante et existe et complète. Et après, c'est ses propres problèmes, on s'entend. Parce que, comme dans la pièce, ça vire pas super génial, cette communauté-là. ce qui est encore plus difficile, parce que quand t'es dans la marge, puis que finalement, tu te ramasses dans la marge, ben là, c'est comme... Que faire, tu sais? Puis c'est, je pense, beaucoup cette question-là que la pièce pose aussi, au final. Là.
Parce que tu as ouvert la porte, Lirel, est-ce que tu me permets, parce que tu disais que toi aussi, au quotidien, tu te retrouves dans la marge. Peux-tu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité-là
En tant que... moi, je parlais comme plus en tant qu'autrice moi-même, tu sais, de mes propres projets, puis en tant que femme trans, là, au final, tu sais, il y a beaucoup de ça dans ma réalité. Puis comme je défends souvent des personnages trans, des personnages marginalisés, j'essaie toujours d'amener comme une humanité là-dedans ou de guider aussi les personnes qui écrivent vers... un aspect qui est un peu plus humain, qui est un peu moins, tu sais, on est un peu moins dans le spectacle, un peu moins dans l'espèce de, tu sais, un peu comme la pornographie de la douleur, tu sais, que moi, je trouve que c'est un petit peu, tu sais, on est un peu dans la sur-représentation
de la
douleur.
Un peu comme ce que t'as fait dans Empathie, finalement.
Exactement.
Parce que dans Empathie, ce personnage, tout le monde aime le personnage que t'as défendu. Ouais. Et c'est un personnage qui est dans la marge, effectivement.
Ben oui, exact, mais qui, au final, prend sa place et par son humanité puis par ce qu'elle apporte aux autres, a une place où elle est absolument acceptée et reçue et aimée, tu sais.
Mélissa, tu voulais dire quelque chose?
Je pensais juste au roman puis au succès que ce roman a eu. Puis moi, ce qui m'a vraiment marqué dans l'accueil du roman, c'est à quel point il est allé toucher toutes sortes de gens, sortes de communautés, toutes confondues. Puis je pense que autant dans la langue de Pierrot que dans, justement, l'adaptation que Marie-Claude en fait... il y a cette connexion à l'humanité, tout simplement, qui nous dégage de toute l'image de l'inaccessible, de la marginalité, puis qui vient juste, comme Lirel l'a bien nommé, chercher la vérité chez les gens.
Ben, j'aimerais peut-être vous amener dans le contexte actuel. On ne peut pas passer à côté parce qu'on vit dans un monde assez difficile. qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce texte, cette pièce?
Oh, mon Dieu! Mais je veux dire, comme c'est pas juste, tu sais, je pense que c'est tout ce qui est autour, un peu comme Mel dit, tu sais, tout autour, tu sais, comme même Pierrot, tu sais, comme toute cette existence, ce besoin de vivre. Puis aussi, tu sais, comme juste le titre, je veux dire, comme on en tant que personne vue comme femme aussi, je pense que comme toutes les violences faites aux femmes, tout ce langage-là qu'on n'avait pas, tu sais, comme de voir ces choses-là, tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser aussi à la série, mettons, I May Destroy You de Michaela Cole, qui est une série britannique incroyable qui parle beaucoup des violences sexuelles, qui parle beaucoup des violences générales. Je trouve que cet aspect-là dans la pièce qui est extrêmement bien représenté de comme les différents types de violences, puis qui fait beaucoup écho à justement ce monde-là dans lequel on vit, tu sais, où il y a énormément de violences, mais qui est cette espèce de... C'est cette attention du détail puis des choses simples comme la relation entre le personnage de Sacha et son chien, tu sais, au final, qui lui fait s'accrocher à la vie, tu sais. Au final, je pense que c'est dans le soin des autres aussi, puis dans le soin qu'on reçoit, qu'on a envie de vivre des fois, tu sais. Fait que ça se peut être communauté.
Ouais, puis je pense que moi, toujours dans l'accueil de cette histoire-là, il y a cette notion de « on te croit » qui... En fait, cette notion d'écoute puis d'accueil... qui n'est pas nécessairement à l'intérieur de l'histoire, parce qu'à l'intérieur de l'histoire, beaucoup de rejet, beaucoup de solitude, mais une fois que cette histoire-là est partagée au grand public, entre guillemets, moi, je me rappelle, à ma première lecture du roman, il y a 4 ans, j'étais comme, mais je suis tellement là pour cette personne-là, je la crois tellement, je voudrais la prendre dans mes bras, je voudrais la supporter, tu sais, fait
As-tu pu être contente d'être dans la distribution, finalement?
Oh my God! C'est sûr que moi, quand j'ai reçu l'audition, quand Olivier Artaud m'a invité en audition, j'étais tellement... j'étais plus qu'heureuse, j'étais juste tellement ravie de pouvoir défendre cette histoire-là puis ce personnage-là, tu sais. C'est clair.
Il faut dire qu'Olivier, je pense qu'il défend beaucoup ce genre de textes qui mettent de l'avant des personnes...
Marie-Ève aussi, c'est ça, c'est vraiment la mission de comme... tu sais, c'est la version qui les intéresse, au final. C'est vraiment ça qu'ils veulent mettre dans la lumière. Là.
Vous venez à une question, je vais sauter d'une question, j'ai la celle-ci, parce qu'on s'est un petit peu parlé sur les questions, mais je vais en sauter une parce que je trouve que quel est l'état d'esprit que cette partition-là vous demande au quotidien quand vous jouez là, dans vos...
Oh my God!
On est vraiment... déjà, c'est la bonne question, je vous entends
rigoler. Non, mais tu sais, on a eu un gros enchaînement, grosse répète hier aussi, fait qu'on est vraiment, tu sais, là-dedans. Là.
Moi, il faut dire que moi, en général, c'est comme j'ai fini mon conservatoire il y a 2 ans, il y a quelque chose qui, même à l'intérieur de l'école, me questionnait beaucoup sur « Hey, c'est tellement pas un métier... » Déjà, en général, les arts, on en parle tellement pas tant, on reconnaît très peu ce métier-là, mais le fait de jouer, c'est tellement un état qui est peu étudié, tu sais, comment on fait justement pour entrer puis sortir d'une répétition, tu sais, c'est quand même, je travaille, moi, mon outil de travail, c'est mon corps, mon canal émotif, fait que comment je fais pour départager les choses, avoir la bonne part de dissociation puis d'association à l'intérieur de moi. C'est sûr que cette histoire-là, elle demande beaucoup d'énergie émotionnelle. Quel état d'esprit ça demande? Ben, ça demande de bien dormir, bien manger, puis se gâter, pour vrai.
Pas trop donner d'entrevue de radio, puis c'est pour ça que j'apprécie celle-ci. Mais je trouve parce que j'ai l'impression que ça vient aussi vous chercher sur le plan personnel, parce que les personnages sont prêts quand même d'une réalité qui est près de vous.
Oui, mais aussi, tu sais, je pense que c'est ça la beauté de notre métier, dans le sens où c'est de se rendre au service d'une histoire, tu sais, puis c'est comment honorer ces personnages-là, comment honorer dans leur vulnérabilité, dans leurs nuances, puis aussi, tu sais, comme... des fois dans leur méchanceté, je veux dire, comme, tu sais, on fait des choses qu'on ferait pas, là, je veux dire, que mes personnages dans la pièce font que moi, je ferais pas, disons, puis... pour le faire tous les jours, puis pour comme le faire subir à quelqu'un que j'aime beaucoup, il faut que, tu sais, on soit dans un état de comme, en ce moment, on sert cette histoire-là, tu sais. Ouais. Faut pas jouer la fin, tu sais. Faut toujours essayer d'être comme au fur et à mesure, puis comprendre pourquoi nos personnages agissent de cette manière-là, pour justement que les choses se révèlent, puis pour que la magie existe et apparaisse entre le public et nous sur scène, tu sais.
Ouais, puis je pense que ça prend un état de confiance.
Ouais.
Énorme.
Un énorme état de confiance avec l'équipe, puis... Je me rends compte que c'est tellement une chance, mais j'ai tellement pas à le creuser dans l'équipe où on est. Il y a quelque chose d'intrinsèque.
Et encadré aussi.
Ouais,
on a une cordeau d'intimité, Jen, qui est là pour nous aider avec tout ce qui est comme plus difficile.
Cordeau d'intimité, juste pour les gens qui savent pas c'est quoi.
Une coordonnatrice d'intimité, c'est une personne qui va faire des chorégraphies, si on veut, ou qui va s'assurer du confort, niveau consentement, niveau limite de chacun, chacune des interprètes, pour les scènes qui sont plus intimes ou qui vont demander un effort comme particulier ou plus vulnérabilisant.
T'sais. C'est ça, Jen est avec nous en répétition, mais juste accessible tout le temps.
Ouais.
Pour nous.
Comment on travaille ça, la tension entre la marginalité du propos, puis on est un peu dans un théâtre où c'est plus institutionnel. Encore des questions compliquées.
Je pense que ça fait du bien parce que on le sent aussi à l'intérieur de la pièce. Je pense que vous allez, je veux pas trop en dire, mais comment Marie-Ève nous introduit à cette histoire-là sur scène. Ouais.
Marie-Ève, c'est la metteur en scène.
Ouais, Marie-Ève Milo ne plonge, en fait, dans cette tension-là. L'ignore pas, au contraire, l'embrasse. Puis oui, en effet, c'est une histoire marginale. Oui, elle est jouée dans un théâtre institutionnel, mais on fait pas semblant de rien. On le sait, on le regarde, puis on y va, on le porte. Fait que si vous voulez voir de quoi cette tension a l'air, je vous invite à être au CTDA du 15 septembre au 10 octobre ou au Trident du 4 au 28 novembre.
Bon, je vais sauter à ma dernière question parce que c'est vraiment intéressant de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que cette histoire-là révèle sur la façon dont notre société perçoit et juge la précarité, d'après vous? Je sais que comme je dis, je n'ai pas lu la pièce, je n'ai pas lu le roman, mais je suis allé voir ce qu'on disait, puis là, je me disais, ça, c'est une question qui intéresserait. Comment on se sent vis-à-vis ça? Parce que c'est quand même des personnages qui vivent dans la marginalité et la précarité.
Oui, c'est des gens aussi qui vivent comme... dans cette contre-culture-là, au final, tu sais, qui se mettent en opposition au capitalisme ou à cette culture-là, puis aussi qui n'ont pas nécessairement tous eu le choix de le faire, tu sais, qui sont peut-être mis dans cette situation-là aussi, tu sais. C'est aussi comme la difficulté du climat au Yukon, tu sais, tout ça, je veux dire, comme il y a cette espèce d'aspect de la nature est plus grande que les humains aussi, tu sais. Puis ça, je pense que... c'est difficile je pense que c'est comme un aspect à garder en tête parce que c'est difficile pour nous de le comprendre ici, là, je veux dire, comme puis dans notre confort et tout, puis de se mettre dans la place des personnages puis de comprendre mieux ces dynamiques-là. Mais un énorme clivage qui est comme, je veux dire, comme qu'on voit au quotidien de plus en plus aujourd'hui autour de nous, de toute façon, puis on est confronté à ça, puis on devrait l'être, tu sais, je veux dire, comme... si on parle juste des personnes en situation d'itinérance à Montréal et tout, je veux dire, comme il y a plein de gens autour de nous qui sont précaires, puis on le voit, puis... il n'y a pas beaucoup de très bonne gestion de tout ça en ce moment, malheureusement, tu sais. Mais je pense que ça nous offre ce reflet-là. Puis encore une fois, tout ce qui humanise ou qui représente avec nuance une personne sans justement la victimiser ou la misérabiliser, je pense que ça aide
à mieux
comprendre et à mieux se comprendre aussi. Puis, parce qu'on est tous proches de ça au final, la précarité, je veux dire, comme dans cette crise du logement, dans tout ça, je veux dire, comme on n'est pas très loin là, de se ramasser dans la rue. Là.
Absolument.
Hey, on a vraiment eu une entrevue. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'était intéressant. Je vous rappelle, donc, j'étais avec Mireille Dauphin et Mélissa Higuère qui vont participer, donc, dans la distribution de la version qui n'intéresse personne, présentée au Centre du théâtre d'aujourd'hui du 15 septembre au 10 octobre prochain. Puis ça va être au Théâtre du Trident. On va les dates rapidement. On ne s'en rappelle pas. Dans quelle date? Au mois de novembre.
Oui, au mois de novembre.
Au mois de novembre. Merci beaucoup, toutes les deux. Merci. Et puis, après la pause, nous, on va faire un petit tour des nouvelles du Canada français. Petite minute de pause, ça va nous faire du bien. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Est-ce que tu penses quand t'avances qu'on enchaîne le pas? Est-ce que tu crois ta puissance ou t'hésites parfois? Tu conscience, tu t'en balances. Tu fais brûler des feux qu'on croyait éteints. Tu fais la guerre, un vrai jeu de gamin. Non, mais quelle assurance, quelle indécence. Pile face à l'île, face. Que ça dure. Est-ce que l'absence de bon sens déjouera les tracas? Est-ce que tu penses que ta danse fera grand éclat? Peu de présence ou de violence? Tu réveilles des volcans cachés au creux des seins de tous celles qui se battent. Toi, toi, tu t'enlèves les mains.
Pile ou face, une chanson de Marjolaine Maurras.
C'est le temps maintenant de notre chronique franco-canadienne. On fait le tour des infos qui touchent la francophonie à l'extérieur du Québec avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Denis Martin.
Alors le français s'invite dans le conflit avec les États-Unis. Que dit la francophonie canadienne?
Oui, je suis sûr que vous en avez entendu parler là, depuis samedi dernier. C'est presque le seul sujet aux nouvelles. Oui, effectivement. Puis on parle du français, mais là, on voulait voir du côté de la francophonie canadienne qu'est-ce qu'on en dit. Puis pour l'instant, c'est un peu difficile d'obtenir une réponse claire parce qu'on cherche encore à démêler ce qui a vraiment été dit entre le Canada et les États-Unis. Là, je suis en train de lire un texte du Journal de Montréal, justement, qui tentait de démêler, puis on ne sait pas encore qui dit vrai. Puis d'après ce qu'on peut voir, les critiques américaine concerne surtout les dispositions au Québec, quoique la loi sur la découvrabilité au Canada peut entrer là-dedans aussi. Donc, malgré cela, il y a la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy, qui, elle, se dit heureuse que le Canada ait quitté la table de négociation. S'il y avait ce genre de demande qui venait des États-Unis, elle dit qu'il faut toujours saluer quand les politiciens se lèvent pour défendre le français, puis c'est ce qu'elle fait. On a aussi parlé de notre côté à Franco-Presse avec le professeur de politique de politique publique de l'Université d'Ottawa qui s'inquiète de ce qu'il estime être une stratégie du gouvernement canadien qui vise à utiliser le français pour gagner des points, surtout au Québec, parce que on rappelle que une des premières fois qu'il en a parlé, c'était en présence de la première ministre Christine Fréchette. Selon le professeur Charles-Étienne Baudry, ça pourrait se retourner contre le Canada si Donald Trump trouver une façon d'instrumentaliser cette critique-là, un peu comme il a tenté de faire hier avec son message où il disait qu'il aimait les francophones du Canada, qui n'a pas convaincu tout le monde, d'après ce qu'on peut voir, mais c'est un peu ce que voulait dire M. Baudry. On se demande aussi si ça ne va pas faire changer d'idée le gouvernement et qui pourrait permettre au CRTC de revenir avec sa demande de contribution de 15% des plateformes, demande aux plateformes de diffusion américaines en ligne qui pourrait contribuer à la production de contenu canadien. Encore ici, Charles-Étienne Baudry croit que ce ne serait pas une bonne idée de revenir sur cette décision-là. On se rappelle qu'au début de l'été, le gouvernement dit non, on n'ira pas de l'avant, on va augmenter notre investissement en culture avec les impôts à la place. Mais il dit quand même peut-être qu'on pourrait revenir aux 5% qu'il y avait avant ou trouver une autre façon de promouvoir le contenu canadien, un peu comme ce qui se fait en Europe.
Oui, et c'est difficile de départir le vrai du faux quand ce sont des déclarations de Donald Trump, parce qu'un jour il dit une chose et le lendemain il dit exactement le contraire.
Exactement.
Et puis là, il a donné une entrevue à CNN dans laquelle il dit que c'est lui qui a amené les dernières demandes du gouvernement américain. Alors, quoi croire, c'est compliqué tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'on continue. La ville régionale de Cap-Acadie lance l'initiative Je parle français, ça sort de l'Acadie Nouvelle.
Je vous en parlais un peu l'année dernière. Il y a eu des controverses dans différentes municipalités acadiennes du Nouveau-Brunswick à propos de règlements sur l'affichage du français, parfois la ville essayait de passer un règlement pour mettre plus de l'avant le français dans l'affichage commercial, puis certains commerçants et résidents s'insurgeaient contre ces demandes-là. Cap-Acadie faisait partie des villes qui ont établi des règlements, mais de leur côté, ça s'est mieux passé. On n'a pas trop entendu de plaintes, mais après avoir adopté ce règlement-là, ils voulaient aller un peu plus loin, puis encourager vraiment la promotion des services en français dans les commerces. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont préparé des macarons où c'est écrit « Je parle français » et ils invitent les commerçants de la ville à en demander pour les donner à leurs employés qui parlent français. Apparemment, la participation est très bonne. Là, c'est une bonne proportion des commerces de la ville qui ont demandé des macarons. Puis, pour l'instant, il n'y a pas de réaction négative de personne. Puis, il y a même plutôt eu des commentaires positifs au cours de l'été venant aussi bien des résidents que des touristes qui étaient de passage à Cap-Acadie. De son côté, le président fondateur du Cercle acadien de la langue française, Mathieu Gérard Casey, lui félicite la ville. Il souligne par contre qu'on pourrait considérer que Cap-Acadie a vraiment réussi quand même les endroits où il est présentement difficile de se faire servir en français commenceront à le faire. Il cite notamment un Tim Hortons de Cap-Acadie en exemple. Puis il note toutefois quand même que Cap-Acadie était déjà une ville où l'affichage en français était déjà prédominant face à l'anglais. Puis que c'était déjà une bonne citoyenne, une bonne joueuse en matière d'affichage en français, mais il est quand même content de voir que ça se passe bien.
Et puis dans le droit, on parle des enseignants de l'Ontario qui retourneront à l'école sans contrat de travail.
Au mois de juin, les 5 syndicats d'enseignants de l'Ontario ont envoyé un avis de convocation au gouvernement afin de négocier le prochain contrat de travail parce que le contrat actuel finit dans quelques jours, le 31 août. La réponse avait d'abord été positive, mais tout au cours de l'été, il n'y a rien qui a été fait. Apparemment parce que ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la forme que vont prendre les négociations, c'est-à-dire quelle table, quelle section va discuter de quelles questions dans le contrat de travail, là, donc comment on se répartit la tâche entre les différentes unités de négociation. Le syndicat des enseignants, lui, rappelle que le ministre de l'Éducation, Paul Calandra, se montre très hostile envers les enseignants et les conseils scolaires depuis son entrée en poste. Il agit un peu comme s'il y avait toujours le dernier mot en éducation, puis qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il s'en est d'ailleurs donné quelques-uns de plus en passant des lois. Les syndicats ont demandé à la Commission des relations de travail de l'Ontario de régler la question, là, donc de décider qui va traiter quoi. Mais le processus pourrait être long, puis prendre plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Et à travers de ça, il y a l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens qui a besoin que les démarches se déroulent en français, qu'il y ait donc une traduction. On est un peu inquiet que ça ralentisse encore plus les choses. Les enseignants vont donc entrer au travail quand même en septembre, mais sans contrat de travail, mais malgré ça, il n'y a pas de menace de grève pour l'instant.
Et toujours dans le droit, un record Guinness battu dans l'Est ontarien.
Vous en avez parlé il y a quelques semaines, puis vous l'avez peut-être vu ailleurs parce que ça a passé dans d'autres médias, même québécois, que j'ai vu. Je vous annonce donc que l'agriculteur François Latour a réussi son pari de battre le record Guinness du plus grand nombre de charrues agricoles fonctionnant en même temps. C'est arrivé samedi, il a réussi à battre l'ancien record qui avait été établi au Manitoba en 2010, où il y avait 66 versoirs qui avaient labouré un champ en même temps. Cette fois-ci, M. Latour et ses collaborateurs ont tiré leur charrue qui mesurait 200 pieds de long, qui contenait 83 versoirs, qui pesait 13 tonnes, puis ils l'ont tiré sur une distance de 200 pieds afin de faire valider le record par les juges de Guinness qui étaient présents ce jour-là. Il y avait aussi apparemment 3000 personnes qui ont été témoins du record.
Et puis on termine avec une nouvelle qui concerne beaucoup les communautés de la diversité sexuelle et de genre, mais quand même tout le monde. Hein. Coup de tonnerre, premier monument national dédié aux personnes de LGBTQIA+.
Oui, c'est le nom de l'œuvre qui a été donné. C'est le nom qui a été donné à l'œuvre qui a été financée à partir du règlement d'un recours judiciaire contre le gouvernement canadien pour les victimes de ce qu'on a appelé la purge LGBT. Cette purge-là s'est déroulée entre 1950 et 1990. Puis pendant ces années-là, le gouvernement du Canada a mené des enquêtes, a harcelé et licencié plus de 2000 membres de la communauté 2ELGBTQI+, au sein des forces armées, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique. L'inauguration a eu lieu vendredi dernier. L'ancien premier ministre Justin Trudeau était présent. Il y avait aussi la générale Jenny Carignan des forces armées. Par contre, l'absence du chef de la GRC a été remarquée par un des annonceurs, un des présentateurs lors de la journée. Puis, si vous voulez voir le monument, il est à Ottawa. Il est tout près du pont Wellington, un des ponts qui traverse à Gatineau, à l'ouest du Parlement canadien.
Grand merci, Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef de Franco-Presse. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Mon cœur a mal quand il est loin, mon âme pleure. Je t'ai pas rencontré plus tôt. C'est comme ça qu'il faut s'occuper de moi. Tu leur as mis quelle vitesse. Cette émotion en moi est vitale. Femme alpha, alpha, oméga. Dans la vie, je fais des tales. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti. Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unique. Elle me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. J'ai capté que j'étais piquée quand je maîtrisais pas du tout mes émotions. Non. Ce moment c'est trop méchant, oh my god, dépassé par toutes mes émotions. Y'a comme un souci, je suis sa bombe à son bord. Il sauterait pour moi dans tous les cas. Il aime ma poussi, à ce moment je peux sauter. L'endroit c'est pas du tout son souci. Mon chéri, tiens, me déguister. Je t'ai la bouche bien, bien aiguisée. Sa tête, cœur, j'ai la vision. Et vas-y, viens, viens, viens déguster. Cette osmose entre toi et moi. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Avec toi, ça coule de source. Mais tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Il use de ses charmes, ses yeux me désarment. J'aime ce petit jeu dans le fond. J'use de mes charmes, mes yeux le désarment. j'aime ce petit jeu dans le fond. Elle me rend petite, avec lui je suis unie. Il me rend petite, avec lui je suis d'humeur taquine. Il me rend petite, avec lui je suis unie.
C'était la chanson « Désarmée » de Aya Nakamura.
Le Festival des arts de Ruelle fête ses 10 ans cette année. Pour en parler, nous recevons Léa Philippe, directrice générale et artistique du Festival des arts de Ruelle, on va dire le phare, mais qui est aussi clown. Alors, bienvenue à l'émission, Léa.
Merci. Alors, oui, je suis clown.
Ben oui, on va en parler un petit peu, oui. Le Phare, donc, fête sa 10e édition du 29 août au 13 septembre. Quand on regarde en arrière, il y a 10 ans, dans une ruelle montréalaise, est-ce qu'on pouvait imaginer que le festival ressemblerait aujourd'hui à ça, là, 300 artistes dans 10 quartiers?
Ben, honnêtement, moi, je fais pas les choses à moitié. Je m'excuse, je suis dehors, il y a les camions qui passent.
Il n'y a pas de trop.
Je fais pas les choses à moitié. Puis quand j'ai su que pour fonder un événement, il fallait que je fasse un OBNL, ben je me suis dit que je serais pas un OBNL pour rien. Fait que c'est sûr que en ce moment c'est pas moins que ce que j'avais imaginé pour la première édition. En fait, je m'imaginais déjà là, mais je me projette beaucoup plus loin. En ce moment, je trouve que le Phare est vraiment le fun, mais c'est juste un soupçon de ce que ça va devenir.
Alors parlons déjà, qu'est-ce que c'est un festival d'art de ruelle?
Oui, ben en fait, c'est un festival qui se passe dans les ruelles. Donc, le lieu, c'est la ruelle. La discipline principale, c'est les arts de rue. Donc, les arts de rue, leur propre, c'est de s'adapter à l'espace public, aux lieux et aux gens qu'ils rencontrent. Donc, plein d'intrigues. Il y a un avion qui passe, il y a une bourrasque de vent qui fait tomber le décor. Donc, ça, c'est vraiment les arts de rue. C'est pluridisciplinaire aussi, autant que tu as du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse qui est créé pour l'espace public. Mais il y a aussi plein de bijoux vraiment atypiques qu'on aime programmer au Phare. Par exemple, un spectacle de suspension capillaire. Il y a vraiment des choses
rien de moins.
Ouais. Exact. Puis on a à peu près quand même un quart de programmation, c'est de la musique. Mm-hmm. Au Québec, on est très, très fort culturellement sur la musique. Les gens se déplacent, sont fans, puis moi-même. Donc, on laisse quand même une très grande place à cette discipline-là. Puis le Phare est présenté sous deux volets. Donc, le premier volet, c'est les quartiers généraux. Donc, autrement dit, on installe un quartier général dans une ruelle, on installe des scènes, on vide les stationnements, là, on met un bar, des kiosques, des tentes. Donc, c'est vraiment comme un déploiement de festival dans une ruelle. Et le quartier général, on le monte le matin, on le démonte le soir, on s'en va ailleurs le lendemain. Ça, c'est les 29 et 30 août et 11, 12, 13 septembre. Donc, la fin de semaine qui précède la fête du travail, puis la fin de semaine après la fête du travail. Puis, au travers de ça, on a une tournée de parades. Donc, les parades, c'est une quinzaine d'artistes, vingtaine parfois. C'est des fanfares, des échasses, des personnages clownesques, de la jonglerie. Puis, on invite les gens à entrer dans la déambulation. C'est des circuits qui durent une heure. On veut que les gens se costument selon les thèmes qui sont différents à chaque jour, avec des artistes différents chaque jour. Et au travers de toute cette tournée de parades, ben on en a une différente cette année qui est vraiment plus grande. On a 43 artistes au moins qui seront au quartier du spectacle le 5 septembre pour une parade qui célèbre le 50e des Olympiques.
OK. Donc, on célèbre aussi des événements qui sont iconiques ou importants là, pour l'histoire ou la ville de Montréal.
Moi, j'ai une passion patrimoine qui est de Montréal. Moi, je suis vraiment amoureuse de la ville puis de Montréal, de son identité. Puis je pense que c'est. On ne peut pas passer à côté du 50e des Olympiques.
Tout à fait. Pourquoi on choisit de faire un festival comme ça? On parle dans les ruelles. C'est quoi l'idée d'être dans les ruelles?
En fait, la ruelle, c'est juste révélée comme ça, par pur hasard. Moi, j'étais une jeune artiste clown qui se cherchait un espace où tester des projets. Rapidement, je me suis rendu compte que je voulais pas faire un spectacle de une heure dans une maison de la culture, en théâtre. C'est pas ce que je cherchais. Je voulais le contact des gens. Puis, naturellement, j'ai découvert les arts de rue. Puis, j'avais envie de fonder un festival qui permet de faire rencontrer les disciplines. Donc, pas pour des clowns par des clowns avec des clowns. Je voulais vraiment comme ouvrir les horizons du public et des artistes, de décloisonner les disciplines. Puis c'est comme un ami qui s'impliquait au festival de marionnettes, le OUF, qui est un festival communautaire en même temps que Castelier en mars, qui m'a dit ben pourquoi tu ferais pas ça dans ma ruelle, là où j'aménageais, puis il a signé le papier, là, au registre des entreprises, le cofondé avec moi.
D'accord. On parlait donc de la présence, l'omniprésence de la musique, mais bon, il y a une autre chose qui est assez forte au Québec, c'est, évidemment, c'est les arts circassiens, on vient de le dire, la suspension capillaire, la présence des clowns. Est-ce qu'il y a beaucoup de formes d'art circassiens qui seront présentées?
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime bien philosopher. On a fait beaucoup de podcasts au phare des balados, dont un il y a 2 ans qui s'appelle Sabras. Et j'avais philosophé, entre autres, avec Michel Gébarrette, qui est cofondateur du regroupement En Piste, regroupement national des arts du cirque, et aussi cofondateur du regroupement des arts de rue du Québec. Là, on a philosophé sur cirque à ciel ouvert versus cirque en art de rue. Donc, des fois, la nuance, elle est très mince, mais c'est sûr que comme directrice artistique, je préfère sélectionner des spectacles de cirque qui sont créés dans un esprit d'art de rue. Donc, des artistes qui ont à cœur vraiment l'imprévu de la rue, ce que je disais tantôt, mais aussi, les arts de rue, ils sont vraiment dans un partage. Je dis pas que les autres disciplines artistiques le sont pas, mais en art de rue, tu vois ton public. Tu vois si ton public s'en va. Mm-hmm. Versus en salle, il reste, il est assis, les lumières sont éteintes, c'est plus difficile de voir les gens. Donc, il y a des numéros de cirque qui sont créés pour la rue qu'on programme au phare. Puis il y a certains numéros de cirque qui sont pas créés pour la rue, mais qu'on programme quand même parce que la démarche est intéressante et que les artistes ont envie d'explorer qu'est-ce que ça donnerait en espace public, en art de rue. Donc, il y a comme un peu les deux approches qui se côtoient. On est vraiment dans l'inclusion, en fait, du lumière au phare.
L'art de rue, est-ce qu'on peut dire que ça aussi, ça implique aussi la participation, une certaine participation du public?
Parfois, pas toujours. Donc, c'est pas parce que tu vois ton public que nécessairement il y a quelqu'un qui va monter sur scène. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça arrive plus souvent qu'à l'occasion.
Vous êtes allé, si je vous comprends bien, vous êtes allé vous promener quelque part en Corée du Sud, en Belgique, en mission de prospection. Comment ça se compare, Montréal, à l'art de rue de là-bas?
Budgétairement, on est ailleurs en termes de soutien politique. Alors, nous, on est dans la campagne de financement en ce moment, au passage, fait.com/je soutiens, parce qu'on n'a pas les moyens de réaliser nos ambitions. En Belgique, au Festival Namur en mai, il y a 80 000 personnes qui se déplacent pour l'art de rue. J'aimerais que ce soit ça, le phare. Pour ça, il faudrait que j'ai du soutien financier pour payer mieux les artistes, pour avoir des employés que je suis capable de maintenir durablement dans leur poste, qui développent une expertise, puis pour que je sois pas en train de faire 40 demandes de subventions par année, puis que je cours après les partenaires privés énormément. On a des très, très bons partenaires privés, mais malgré tout, il y a une récession économique. Donc, l'argent ne pleut pas, puis ça fait que ça, ben on est moins capable de faire de la publicité qui génère du rayonnement, qui génère de l'achalandage et qui fait tourner la roue. Donc, tu sais, à Québec, par exemple, le maire de Québec a créé un événement qui s'appelle Réverbère, qui va fêter sa 3e édition en octobre. Et ça, c'est merveilleux parce qu'il y a mis 480 000 pour la première édition. Donc, on n'est vraiment pas là à Montréal, mais je vois que ça existe de l'art de rue ailleurs dans le monde et même à Québec, on tend vers ça, que les gens viennent pour écouter attentivement un spectacle d'art de rue qui a une ligne dramaturgique. Tandis qu'au phare, on est dans des courtes performances, c'est très dynamique, on est vraiment dans la découvrabilité de la discipline pour des gens qui ne sont pas initiés, puis c'est parfait aussi parce qu'on veut... On veut faire découvrir de manière dynamique et festive cet art-là. Puis en Corée, ce qui m'a frappé en fait, c'est que pour eux, la première chose que les touristes, par exemple, découvrent, c'est l'espace public. Donc pour eux, l'art vivant en espace public et l'architecture, c'est vraiment deux priorités. Ils ont beaucoup de festivals d'art de rue. Il y a zéro panneau commanditaire. Il y a zéro bar. Ils vendent pas de marchandises. Donc, c'est 100% financé. Et je crois que l'art est un levier de diplomatie pour la Corée. Je trouve ça très inspirant. Et d'ailleurs, j'y retourne pour une 4e fois en octobre parce qu'on m'invite encore.
Ah oui? Ah ben
ouais.
Et pour aussi participer donc en tant qu'artiste en même temps?
En octobre dernier, j'ai participé comme artiste. Ouais. Effectivement, on a fait un échange avec le CEO du Twitter Festival qui voulait que les deux festivals, les directions se visitent et qu'on programme des artistes de l'autre festival. Dans mon cas, j'avais les deux chapeaux, donc artiste et directrice. Puis on a reçu des artistes et les directions. Après ça, en mars, c'était via la délégation économique et culturelle, la mission économique et culturelle de la mairesse de Montréal. Il y avait 35 organismes, donc moi, j'étais là avec le chapeau des arts de rue un peu. Ben, en fait, 100% arts de rue, mais dans le sens, c'était pas officiel qu'il y avait la case arts de rue dans la délégation. Puis là, ben en fait, je m'en vais probablement là, 95% au Busan Street Art Festival. Donc, un autre festival d'art de rue, mais avant d'aller là, ben, au phare, on reçoit cette année la compagnie Green Cow de la Corée du Sud qui ont cherché leur propre financement pour venir au phare. C'est extraordinaire. Ils ont fait une demande, puis il y a 7 Coréens qui viennent au phare, puis nous, ben, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de les loger. T'sais. Donc, on a vraiment, on sent que la Corée considère les arts de rue et considère le phare vraiment comme un pilier culturel important. C'est très flatteur.
Alors, on va parler un petit peu de vous, Léa, ou de toi, Léa. Tu es clown, on l'a dit. En quoi ce travail, cet art du clown a joué dans la création ou dans l'envie de créer un festival?
Ben, en fait, moi, à la base, j'essayais de plutôt être comédienne. Ah. Et j'étais pas bonne pour apprendre des textes. Et je voulais voir le public. Je comprenais pas de faire semblant que le public était pas là. Là, j'ai pas
le quatrième mur, ouais.
Cette capacité-là. Mm-hmm. J'ai essayé, tu sais. Mais donc, ce que ça dit sur moi, en fait, c'est que j'aime être dans le moment présent, donc dans l'improvisation, dans la spontanéité, et j'aime beaucoup, beaucoup les rencontres avec les gens. Donc c'est sûr que de fonder le phare, pour moi, c'est de mettre ensemble des gens, de faire rencontrer des artistes. La première édition, j'ai invité plein de gens spontanément. Il y a eu 74 personnes qui ont dit oui, puis c'était juste une journée. Le monde voulait être là, le monde a embarqué. Je pense que j'ai vraiment cette force de mobilisation-là, autant du côté des artistes, mais les voisinages. C'est pour installer le phare dans un quartier général, dans une ruelle, on demande aux gens de débrancher 4 fours. Donc, ça prend des citoyens qui débranchent leurs fours, on installe les panneaux électriques. On vide les stationnements pour installer des scènes. On installe des fanions géants qui passent de balcon en balcon. On est vraiment... La loge, c'est une maison, le quartier général, dans le quartier général. Donc, où on installe notre stock d'équipe, les chargeurs de walkie-talkie, par exemple. C'est tout chez des gens. Fait que ça prend une grande, grande capacité de mobilisation. Puis je pense que ça me vient, entre autres, de l'école de clown qui est très dans l'adrénaline. Puis c'est très fonceur, un clown. Fait que je pense que ça m'a appris à créer ce genre de rencontre-là. Puis c'est la même chose quand je vais chercher des partenariats de commandites privées, par exemple.
Bien, on va devoir s'arrêter là-dessus, Léa Philippe. Merci beaucoup, Léa Philippe, qui est directrice générale et artistique du Festival d'art de ruelle, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. C'est du 29 août au 13 septembre dans plusieurs quartiers de Montréal. Alors, pour plus de détails, et la programmation en ligne, évidemment, on va sur le site du Phare. Et
oui, puis, est-ce que je peux...
Oui, allez-y,
ajouter,
rapidement, oui.
Oui, demain soir, c'est la soirée bénéfice dans un lieu secret avec la chanteuse originale de Alegria, qui nous chante 3 succès d'Alegria avec des performances de cirque. Donc, si vous voulez venir, c'est festivaltemps.com. Aujourd'hui, il faut réserver un billet pour avoir l'adresse du lieu secret.
Ah, ben c'est bien. On va toujours jouer dans ces mystères-là. On aime ça. Merci beaucoup, Léa Philippe.
Merci. À vous. Bonne journée.
Bonne journée. Petit rappel météo, Québec, Ontario, province maritime, alternance de soleil et de nuages, possibilité d'averses et risque d'un orage. Et on va dans les maximums autour de 26 avec un humidex de 30 degrés. C'est plutôt de la pluie à Terre-Neuve dans le nord ontarien, 24 degrés, humidex 28. Du soleil dans l'ouest, maximum 27 à 29 avec un avis de qualité d'air en Saskatchewan. Et puis, c'est des possibilités d'averses et risque d'orage en Colombie-Britannique à l'intérieur des terres. Et sur la côte ouest, c'est du soleil avec 21 degrés. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je serai de retour demain à la même heure pour une autre édition de l'émission Au quotidien. Merci beaucoup à Mathieu Tessier, à la régie. À demain!